Ce texte de l'Évangile qui nous parle de la pêche miraculeuse. Vous vous rappelez? Oui, très bien. Cette semaine, on va retourner dans une autre pêche miraculeuse, un peu particulière. Je vous invite à lire avec moi l'Évangile de Jean, chapitre 21. À partir du verset 1 au verset 14, c'est une pêche miraculeuse qui concerne encore une fois un petit nombre. C'est que les disciples. C'est étonnant, ils vont repasser par une histoire qu'ils ont déjà vécue. On sait très bien que Jésus ne fait pas de la même manière deux miracles. Mais là, il y a quelque chose, il y a une leçon, il y a une volonté du Seigneur de se révéler à ses disciples. Et on verra aussi la nécessité pour eux, finalement, de se retrouver dans cette situation. Le texte de l'évangile de Jean nous dit « Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Voici comme il se manifesta Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher » et lui dirent « Nous allons, nous aussi, avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y ait eu temps, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez, mangez ». Et aucun de ses disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Amen. Le texte nous parle d'un moment bien particulier, d'un moment très compliqué pour les disciples qui avaient pendant 3 ans suivi Jésus et qui avaient vu Jésus à l'œuvre, avaient vu ce Jésus accomplir des miracles incroyables, des personnes qui étaient malades depuis 10, 15, 20 ans être relevées en un instant. Ça ne court pas les rues, n'est-ce pas? Et pour eux, voir de telles manifestations, voir des hommes, des femmes possédées être délivrées, voir des personnes malades être guéries, voir des pêcheurs changer de direction, accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur, décider de ne plus continuer dans le péché, c'était quelque chose qu'on aimerait pouvoir voir, nous tous les jours, non? Et je me suis posé la question, lisant ce texte, après avoir vécu 3 ans incroyables comme ça, qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'à un moment ils prennent la décision de partir à la pêche? Quelle est votre passion? Peut-être pas la pêche, on en a parlé la semaine dernière. Mais c'est quelque chose qu'ils avaient l'habitude de vivre. C'était des pêcheurs de base, c'était leur métier. Et je me suis posé la question, en réalité, quand on est dans un moment d'incertitude, quand on est dans un moment de doute, de confusion, on n'a pas parfois tendance à revenir à nos vieilles habitudes, à des choses dans lesquelles on se sent à peu près rassuré, qu'on arrive à maîtriser. Et en effet, Simon-Pierre, lui, il se rendait compte que là, il ne maîtrisait plus rien. Il ne savait plus quel aurait été leur futur, leur lendemain. Il n'y en avait pas, Jésus n'était plus là. Ils étaient enfermés dans une chambre haute parce qu'ils avaient peur d'être eux aussi mis à mort comme Jésus. Ils avaient peur de souffrir les mêmes souffrances que Jésus. Et pourtant, Jésus, avant d'en arriver là, il leur avait dit tout ce qui allait se passer, et je dirais presque à la virgule près. Et pourtant, ils n'arrivaient pas à réaliser qu'ils étaient en plein dans la réalisation des prophéties que Dieu avait données pendant des années, des siècles avant, à différents prophètes. Ils étaient en train de vivre l'accomplissement des prophéties. Est-ce que nous nous rendons compte, nous aussi, aujourd'hui, que nous vivons l'accomplissement des prophéties ? Peut-être on peut se dire, non, mais c'est un jour comme un autre. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce qui se passe, jour après jour, il fait partie d'un plan et d'un projet de Dieu que Dieu maîtrise à la virgule près. Nous, on a du mal à maîtriser à la virgule près, n'est-ce pas ? Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'écris quelque chose, je demande après à mon épouse de corriger. Et parfois, je la vois sourire et dire « Ah là, t'as ajouté ceci, là, il ne fallait pas mettre cela, ok, très bien. » Et je me dis « Maintenant, c'est bon. » Ça doit être bon, maintenant on a maîtrisé, on a réglé, allez, on envoie. Et après je vois, ah tiens, là on a sauté ça, là on n'a pas vu ceci, là on n'a pas vu cela. Il y a encore des imperfections, nous on ne maîtrise pas tout, non ? On ne maîtrise pas tout. On aimerait pouvoir tout maîtriser. On se sentirait rassuré. Et c'est cette partie qu'on est fait de nous ce que nous sommes, des êtres humains qui n'ont pas toutes les capacités, mais qui ont besoin de celui qui les a toutes. Alors, est-ce que nous aussi, on aurait été tenté de faire comme Simon, de dire « je vais à la pêche ». Peut-être on s'est revenu à notre jardin. Je vais semer des courgettes. Je vais planter des patates. Tiens, je vais bricoler la voiture. Ah ben oui, on a tous quelque chose qui nous vient tout de suite à la tête. Allez, je vais m'occuper de ranger mon garage. Non ? Ça fait X années qu'on me dit qu'il fallait ranger la cave. Vous savez, quand on déménage, on est obligé de le faire. Alors je voudrais vous dire aussi un conseil, faites-le au fur et à mesure, parce qu'après, vous vous dites, Seigneur, comment on a fait accumuler tout ça ? Quelqu'un m'a dit, ça fait 30 ans qu'on habite dans cette maison, le jour que je dois déménager, parce qu'il se dit, on commence à vieillir, c'est une grande maison, si on doit partir dans un petit appartement, je fais comment ? Ça va être compliqué, hein ? Compliqué. Heureusement que quand on part dans le ciel, on n'a pas besoin de déménager quoi que ce soit. On repart comme on est venu. Mais en lisant ce texte, je vois cette détermination de Simon-Pierre qui dit « je vais ». Il est tellement déterminé qu'avec lui, il entraîne d'autres disciples. La seule chose qu'ils trouveront à dire, on vient avec toi. Et il est vrai que Jésus a choisi des hommes imparfaits pour une œuvre parfaite, n'est-ce pas ? Et cette imperfection, comment elle se manifeste ? Alors pour nous, ce n'est pas facile à comprendre puisqu'on est parfait. À quel moment nos imperfections se manifestent ? D'accord ? Quoi encore ? Moi, j'aime bien quand c'est interactif. Hein. N'ayez pas peur. Quand est-ce que nos faiblesses, nos imperfections se manifestent ? Tout à fait. En réalité, si on venait à l'état des matériaux, du métal, c'est quand on chauffe qu'on voit les imperfections, les impuretés ressortir, n'est-ce pas ? Ou autrement, si on parlait du verre, on les expose à la lumière pour voir si tout est parfait ou s'il y a une imperfection. Je me rappelle, gamin, mon papa, il avait travaillé pendant un certain temps dans une entreprise qui faisait des sodas. Et moi, je passais le temps à regarder les bouteilles passaient parce qu'il y avait une lampe derrière, et s'il y avait quelque chose qui s'était introduit qui ne devait pas y être, un petit bout de métal ou un petit bout de verre, ça se voyait tout de suite. Et à l'excuse, de temps en temps, j'en goûtais une pour voir la qualité. Mais dans notre vie, Dieu permet des situations, des circonstances pour voir en réalité où nous en sommes avec nos imperfections. Alors, vous savez, Dieu sait très bien où on en est. En réalité, ceux qui ont besoin de savoir où on en est, c'est nous-mêmes. Et ces situations, elles sont là pour nous apprendre à connaître nos limites, mais aussi nos incapacités. Et en réalité, dans cette situation, que ce soit Simon, que ce soit les autres disciples, ont tous, excusez-moi, touché le fond de la situation de leur vie. Simon, qui se disait être capable de mourir pour Jésus, il l'a lâché. Et il est reparti en pleurant. Et excusez-moi, certainement, nous, on n'aurait pas fait mieux. Les autres disciples, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ah, mais nous aussi, on avait dit qu'on serait avec Jésus, mais regarde, on n'a même pas bougé le petit doigt. Est-ce que nous, on aurait fait quelque chose? Non plus. Est-ce qu'ils avaient besoin de cela? Réaliser quelle est notre nature, mais aussi réaliser de quelle nature est notre service pour Dieu. Réaliser nos capacités, mais réaliser aussi nos besoins vis-à-vis de Dieu. Si on était capable par nous-mêmes de tout faire, c'est presque à dire que Dieu avait besoin de nous. Alors je voudrais vous enlever ça tout de suite. Si quelqu'un avait cette conviction, Dieu n'a pas besoin de nous. C'est clair. Et on le verra aussi. On le verra un peu plus en détail. Et le texte nous dit que dans ces conditions-là, Simon avait servi pendant 3 ans, les disciples avaient servi pendant 3 ans, mais ils l'avaient servi avec leur qualité, avec leur connaissance, avec leur vision. Et on pourrait continuer. Hein. Certains, déjà, ils se voyaient le chef, l'autre le sous-chef. Les autres se voyaient déjà à une place de responsabilité, les autres se voyaient peut-être même au gouvernement, puisqu'ils pensaient que Jésus venait pour renverser l'Empire romain. N'est-ce pas? Un jour, dit la parole de Dieu, que le peuple était venu chercher Jésus pour le faire roi. Alors vous imaginez, les 12 disciples, ils se sont dit, alors là c'est bon, le gouvernement est fait. Il y en avait un même qui se disait, moi je vais m'occuper du trésor public. Les aspirations personnelles. Et pendant 3 ans, en réalité, ils ont servi Dieu avec ça. La preuve en est de toutes les erreurs et toutes les fois où Jésus les reprendra. Jusqu'à quand j'aurai de la patience envers vous? Jusqu'à quand je vais encore? Et combien de fois nous-mêmes, frères et sœurs, on pourrait se poser la question, jusqu'à quand Dieu aura patience avec moi? Puisque encore, j'aurai fait les mêmes erreurs et je recommence. Et ça, c'est terrible. Et le texte dit qu'ils avaient essayé de pêcher toute la nuit et ils ne prirent rien. Mais encore une fois, Jésus vient sur le bord du lac. Il attend qu'on soit arrivé au bord un peu de nos limites. Et Jésus vient. Le matin arrive. Quelle belle image. Quand Jésus est là, la lumière apparaît. On sort de la nuit, de la confusion, on sort de nos erreurs, on sort de nos problématiques, le Seigneur éclaire à la situation, il dit, tu vois, c'est ça. Avez-vous déjà essayé de vous déplacer en pleine nuit sans lumière? On trouve tout ce qu'on n'a pas cherché, le coin de la porte, le pied de la chaise, on trouve tout ce qu'on n'a pas cherché, mais si on cherche quelque chose, c'est certain, on ne le trouve pas. On a besoin d'être éclairé. Et là, Jésus vient pour les éclairer. Il y a des moments dans notre vie où nous aussi, nous passons par un moment sombre. Et la nuit peut sembler longue. Et en effet, dans ce type de situation, on n'arrive à rien. Comme eux, ils ne prirent rien. On n'arrive pas à atteindre quelconque résultat. Et pourtant, on met des efforts. Et on peut se dire, mais pendant 3 ans, j'ai servi le Seigneur de telle manière que j'ai vu des miracles. Même les disciples eux-mêmes avaient fait des miracles envoyés par Jésus, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui se passe maintenant pour que plus rien ne marche? Ils ont été confrontés à leurs limites. Et c'est une nécessité pour tous. Je voudrais vous dire, tôt ou tard, Dieu nous confronte à nos limites. Soyons pas étonnés qu'à un moment de notre vie, rien ne va plus et c'est parce que Dieu veut nous prouver quelque chose. C'est que jusque-là, on a certainement voulu servir le Seigneur de tout notre cœur. Pas de problème. Mais on l'a fait avec notre chair. On l'a fait avec nos capacités personnelles, notre volonté, notre intelligence, notre super intelligence. Et on a fait des super boulettes. Et quand on se retrouve en perte totale de la vision, on a besoin que le Seigneur vienne et nous en donne une nouvelle. Une nouvelle. Et le texte nous dit que Jésus, le matin venu, se trouva sur le rivage. Alors je trouve ce texte incroyable, on pourrait en parler pendant des heures, je vous assure. Il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger ? Enfants. Est-ce que vous voyez, vous, interpeller quelqu'un et lui dire, enfant, t'as rien à manger ? C'était des messieurs, hein ? C'était des gaillards. Certainement, il devait être aussi musclé. Pierre, alors, le texte dit qu'il était nu, c'était pas qu'il était nu, c'est qu'il avait enlevé la partie supérieure de sa tunique, parce que c'était plus à l'aise pour travailler, d'accord ? Donc, il y avait du muscle qui sortait, hein ? Enfant, enfant. Et quand Jésus nous adresse la parole, quand Jésus nous parle, il nous rappelle toujours quelle est sa place, mais aussi quelle est la nôtre. N'oublions pas que nous sommes appelés à être comme des enfants devant le Seigneur. Soyons simples comme un enfant. Et la question se pose, puisque la lumière brille, l'espérance d'un avenir meilleur est là, ils sont interpellés, enfants. Il y a un constat à faire. Vous n'avez rien à manger ? Est-ce qu'on fait un constat de notre vie ? Est-ce qu'on s'arrête par moment à faire un constat ? Dire, Seigneur, si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas ? Et vous savez, on a souvent tendance à chercher les fautes ailleurs. On prend pas la première réaction n'est pas de dire, c'est moi. On cherche à droite ou à gauche un bouc émissaire pour dire, c'est pas moi, c'est lui. C'est logique. Moi, chaque fois qu'on a eu quelque chose à la maison avec les enfants, on n'a jamais réussi à comprendre qui c'était. On posait la question, ah non, c'est pas moi. Indirectement, ils ne disaient pas c'est l'autre, mais ça voulait dire. Alors vous posez la question au premier, vous posez la question au deuxième, vous posez la question au troisième, c'est pas moi. Mais attends, quelqu'un a dû faire ça. Oui, certainement, mais c'est pas moi. Et nous, on est un peu comme ça. Seigneur, c'est pas moi, c'est pas possible. Moi, je t'aime, Seigneur. J'ai pas pu faire ça. Mais vous savez, le Seigneur ne met pas, et si vous regardez bien, le Seigneur ne remet pas en question leur amour. Mais il veut que leur amour grandisse. D'ailleurs, vous connaissez la suite. Il dit, m'aimes-tu ? Mais alors fais ceci, va plus loin. Tu veux vraiment m'aimer ? Prends ta responsabilité, avance, fais quelque chose. Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose pour le Seigneur ? Eh bien, ça commence par une remise en question et une réponse claire. Vous n'avez rien à manger ? Non, Seigneur. Je n'ai plus rien à manger. Je suis l'estomac vide. Je suis fatigué. J'ai tout donné. Et je n'ai pas vu de résultat. Alors Jésus leur donne une direction. Et ça, c'est beau. Parce que quand on est capable d'être vrai avec le Seigneur a une solution pour nous. Amen. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Pourquoi à droite ? Parce que peut-être ils avaient fait que à gauche. Vous savez, parfois on fait les choses par habitude. On se lève toujours du même côté. On tourne le café toujours dans le même sens. Il y a plein de choses qu'on fait comme ça. On a nos habitudes, on a nos rythmes. Et le Seigneur lui dit non, fais autrement. Est-ce que le Seigneur peut nous demander de faire autrement ? Mais est-ce qu'on est prêt à le faire ? Oui, il peut nous le demander. Il n'y a pas de souci, tu peux demander tout ce que tu veux, Seigneur. Mais est-ce que je vais le faire ? Ou est-ce que je vais dire, Seigneur, toi tu dis de mettre à droite, toi je mets à gauche, c'est la même chose, c'est pas un problème, le poisson peut passer d'un côté à l'autre. Non, il est clair dans la direction. Quand le Seigneur te demande de prendre une direction, prends-la, fais-lui confiance. Et encore une fois, ils vont obéir et c'est merveilleux. Le résultat, ils jetèrent donc Et le texte dit, il n'était plus capable de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, c'était ce qui s'était passé au moment où Jésus est venu les appeler au ministère. Désormais, ne seraient plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Jésus, il vient en réalité leur rappeler leur appel. Est-ce qu'on a besoin que le Seigneur nous rappelle notre appel? Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu a changé, il ne change pas. Il n'a même pas changé d'idée. Dieu, quand il prend une décision, il la tient toujours. D'ailleurs, le problème, c'est que il fallait pour les disciples comprendre comment le Seigneur voulait qu'ils le servent. Non plus avec la chair, mais avec l'esprit. Et ils avaient besoin de cette révélation, ils avaient besoin en réalité, comme nous tous, on a besoin à un moment de se trouver confronté à nos limites pour dire Seigneur, ok, je l'ai fait de tout mon cœur, mais je me suis trompé. Et à partir de maintenant, Seigneur, je ne veux plus te servir comme ça, parce que ça ne porte pas de fruits, le filet il est vide, malgré les efforts que j'ai pu mettre. Regardez, Jésus, il arrive en 3 secondes, ils ont fait une pêche miraculeuse, ils ont bossé toute la nuit. Combien de fois nous on essaie de régler les problèmes, on se prend la tête pendant des semaines, et après le Seigneur vient et tac, t'as vu, c'était simple. Pourquoi? Parce que c'est une chose de servir avec la chair, c'est autre chose de servir avec l'esprit. Mais il faut être capable aussi d'accepter qu'à un moment dans notre vie, malheureusement, on a servi avec la chair. Autrement, on ne peut pas passer à l'étape suivante, hein, c'est clair. On a pu commettre des erreurs. Il faut les reconnaître. Et parce qu'on les reconnaît, le Seigneur nous donne la nouvelle direction. Et Dieu soit loué. Alors, il leur dit, écoutez, ok, vas-y. Alors, le texte nous dit qu'il y a une réaction. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quelle manière de pointer du doigt. Comme si le seul disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Et pourtant, dans le jardin de Gethsémané, Jésus a dit, laissez-les aller, c'est moi que vous voulez. Il les a tous protégés. Il les aimait tous. Mais c'est vrai que Jean osait aller un tout petit peu plus loin. C'était le seul qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Amen. Si on devait choisir quelqu'un ce soir qui aime Jésus, qui peut-on choisir? Qui voudrait ce titre? Le disciple que Jésus aimait. Hein? Mais est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on ose aller jusqu'au point? Parce que vous voyez, c'est pas la tenue vestimentaire, c'est pas les paroles, c'est l'amour qui va permettre en réalité à Jean de reconnaître Jésus. C'est l'amour profond, c'est la relation, non pas un amour intellectuel, c'est quelque chose de profond, il dit, ben, c'est Jésus. Et là, Simon, première réaction, qu'est-ce qu'il fait? Alors que finalement les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, il dit, ah, c'est le Seigneur, il est venu. Il reconnaît aussi sa misère, sa nudité. Il dit le texte qu'il était nu. Il faut être capable à un moment de dire, Seigneur, hein, comme la lettre dans l'Apocalypse à l'Église. Tu crois être ceci et cela, mais tu es pauvre, misérable et nu. Et en réalité, c'est quand on reconnaît la réalité de notre vie et qu'on se repent, que nous pouvons finalement accéder à la grâce sans repentance. Pas de grâce, vous m'excusez, mais moi, c'est comme ça que je lis la parole de Dieu. Alors, je suis étonné de voir que de plus en plus, il y a des traductions bibliques où le mot repentance n'existe plus. On parle de changement de comportement. Mais la repentance, c'est un changement radical. C'est reconnaître qu'on s'est trompé. C'est finalement se dire, Seigneur, c'est vrai, je me suis égaré, j'ai commis des péchés et je ne dois plus retomber dans les mêmes choses si c'est juste un changement de comportement. Je disais à quelqu'un, quand on parle du mot repentance, c'est profond, non? Mais changement de comportement. Si avant je volais avec violence, maintenant, je vole avec le sourire. Est-ce que ça a changé sur le fond? Mais j'ai changé de comportement. Je le fais, mais je te souris. Tu devrais être heureux, je viens de te voler. mais ça n'a pas changé le fond. Par contre, une réelle repentance fait que je ne vole plus. Je ne retombe plus dans les choses du passé. S'il n'y a pas de repentance, ben, c'est un désastre. Quelqu'un un jour a dit, un salut facile est un salut fragile. La repentance nous amène à nous sentir brisés devant Dieu, reconnaître notre misère. Et après, finalement, il est question d'un acte de foi. Et le texte dit, il se jeta dans la mer. Il est revenu avec son cœur, mais aussi avec son âme à Christ. Il n'a pas attendu que tout le monde l'emmène. Ce soir, on pourrait se dire, ouais, c'est super, ce texte, je l'avais peut-être déjà entendu comme ça, ou je ne l'ai jamais entendu comme ça. Mais la question principale, c'est qu'est-ce que tu fais de ton cœur, de ton âme? Si tu reconnais un moment ou un autre dans ta vie que tu t'es malheureusement trompé ou que tu as fait les choses d'une manière, mais que ce n'était pas celle que Christ voulait, est-ce que tu es prêt à revenir avec ton cœur et ton âme au Seigneur? En disant, Seigneur, c'est toi. Ce que tu avais dit, c'était vrai. Je te demande pardon parce que je ne pensais pas que ça se serait produit comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, ben lui, il vient. Les autres, ils viennent aussi. Alors, ils viennent différemment. Eux, ils viennent en bateau. Ce qui est important, c'est qu'ils sont tous arrivés à Jésus. Et je voudrais vous dire que parfois, on peut prendre des décisions différentes, mais atteindre le même but. Ce qui est important, c'est que chacun le fasse en connaissance de cause. Non, excusez-moi, non pour suivre comme un mouton, mais parce que dans notre cœur, il y a un processus qui se fait. Pour certains, ce processus est plus rapide, pour d'autres est plus long, il faut respecter. Ce n'est pas parce que peut-être j'ai gagné un millième de seconde que je dois tout de suite me tourner en arrière en disant hey, « Hé les frères, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes longs ?» Non. Il y a tout un cheminement qui est différent les uns pour les autres. Mais ce qui est important, c'est que finalement, ils vont tous se retrouver avec Jésus. Et ça, c'est beau. Et je vous disais tout à l'heure, en réalité, Dieu n'a pas besoin de nous. Preuve. Regardez le texte. Il dit le texte au verset 9. « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. » Jésus n'attendait pas qu'il fasse la pêche. Alors, question. D'où venait le poisson? D'où venait le pain? D'où venait le brasier? Trois choses importantes. Encore une fois, une leçon, c'est le maître qui fait la cuisine. Il pourrait faire son nom, croyez-moi. Mais il veut nous rendre participants. Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, ayons cette humilité de dire, Seigneur, tu pourrais le faire sans moi, mais merci parce que tu me permets de le faire avec toi. Et là, vous savez, c'est mieux. Ça nous permet en réalité de grandir et ça nous permet même de mieux savourer les choses. Et en même temps, on rend gloire à Dieu au lieu de faire un culte personnel. Le maître fait la cuisine et nous prépare la nourriture dont nous avons besoin. Avez-vous mangé? Non, Seigneur, moi je vais vous nourrir. Jésus, le pain de vie, le pain descendu du ciel. C'est de cela que les disciples avaient besoin. De quoi avons-nous besoin pour servir Dieu? Du pain de ce monde qui rassit? Ou du pain venu du ciel? Quand on habitait en Italie, on allait acheter le pain chez une dame qui faisait le pain chez elle. À l'ancienne, à la main. Cette femme s'était retrouvée avec son mari qui avait fait une erreur et il était fini en prison. Et pour nourrir sa famille, cette femme s'était dit « j'ai un four, j'ai des mains, je fais du pain, je le vends ». Et elle a nourri sa famille, elle a nourri son foyer. Jusqu'au jour où son mari est revenu et finalement a repris son activité. Et on allait acheter le pain chez cette femme, et le pain, je peux vous dire sincèrement, waouh, j'en rêve encore. Ah oui, ah oui. On achetait le pain, vous pouviez le couper encore 2 jours après, il était toujours bon. Aujourd'hui, quand vous achetez du pain, le plus souvent, si vous ne le mangez pas vite, 1 heure après, déjà, c'est plus le même. Et le soir, c'est devenu du bois. Vous pouvez allumer le feu. N'est-ce pas? C'est plus la même chose. Ce n'est plus la même nature. Si dans notre vie, on pense servir Dieu avec la nourriture de ce monde, on se trompe. Si je veux servir Dieu, j'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu. Non pas des théories du monde, non pas des plans et des systèmes de ce monde, j'ai besoin du pain qui vient du ciel. Deuxième chose, le poisson. Alors j'ai regardé un peu, mais vous le connaissez, vous savez déjà le principe, c'est que d'après la loi de Moïse, les poissons à écailles et à nageoire étaient purs. Souvent, et je dirais que dès le principe, ce qui était utilisé comme symbole parmi les chrétiens, vous savez ce que c'était? Ictus. C'est pour ça le nom du petit journal pour l'Église, Ictus. Une personne dessinait une partie, et si l'autre était chrétien, il dessinait la deuxième partie. C'était une manière de se reconnaître. C'était la seule manière pour éviter de tomber dans un piège. Le vrai chrétien, c'est celui que Dieu identifie d'une certaine manière. Et le Seigneur souhaite trouver en nous des vrais poissons comme il le faut et non pas, excusez-moi, des poissons qui n'ont ni écailles ni nageoires. Qu'est-ce qu'un poisson qui n'a ni écailles ni nageoires? Ça ressemble plus à un serpent qu'à un poisson, n'est-ce pas? À une anguille, quelque chose qui glisse. Quand un poisson il a des écailles, ça glisse moins, non? Mais c'est aussi une protection. Il y a tout un aspect d'enseignement qu'on pourrait prendre du temps là-dessus. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a tellement à dire. Est-ce que nous sommes des chrétiens selon le modèle original ou est-ce que nous sommes des mystifications, des mauvaises copies? C'est une chose quand on mange du bon poisson. C'est autre chose quand on mange du produit en quantité qui n'a ni goût ni saveur, qui a été engraissé, je sais pas avec quoi, et que vous le mangez, vous dites tiens, c'est du poisson. Quand le monde s'approche de nous, est-ce qu'il peut nous reconnaître en tant que chrétien? Ou est-ce qu'il se dit, est-ce que c'est ça, un chrétien? Troisième chose, le feu, symbole de purification. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, j'ai besoin de cette purification, non que je vais me faire moi-même, parce que vous savez, on peut s'adopter des lois. D'ailleurs, Jésus reprochait aux Juifs vos lois. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas les lois de Dieu. Ils avaient ajouté des règles sur règles sur règles sur règles, tellement de règles que ils savaient plus quoi en faire. Et nous, parfois, on se fait des règles, on se fait des lois, mais que la Bible, elle ne nous demande pas. Et le Seigneur nous demande, tu veux être purifié? Ce n'est pas encore une fois par tes propres efforts. Demande le secours de Dieu. Tu veux changer dans ta vie? Tu veux abandonner telle ou telle chose? Vous savez comment abandonner nos passions? Parfois, on se dit, comment je vais arrêter, allez, de fumer? Je ne peux pas arrêter de fumer. J'ai fumé. Le jour où tu confesses que Jésus est vivant, le jour où tu confesses que Christ, à la croix, il a payé pour toi, et qu'il a tout accompli, et que tu prends ce tout accompli comme une délivrance pour toi, et ce jour-là, tu vis la délivrance. Mais tant que tu essaies par toi-même d'arrêter de fumer, ben tu n'y arriveras pas. C'est normal, avec tes propres efforts. Autrement, tu n'aurais pas besoin de Dieu. Qu'avons-nous besoin ce soir? Jésus, il dit le texte, s'approcha, prit le pain et l'ordonna ainsi. Que le poisson. Sommes-nous prêts à recevoir la nourriture du ciel ce soir? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, j'ai besoin que toi, tu me nourrisses. Seigneur, fais-moi sortir de cette période difficile de ma vie. Seigneur, s'il te plaît, redonne-moi la bonne vision des choses. Seigneur, j'accepte, je me suis trompé. Vous savez, c'est mieux accepter que s'entêter. Hein. Parce que quand on s'entête, je vais vous dire, Dieu a le temps. Hein. Ah oui, lui, c'est pas un problème. Un jour pour lui, c'est combien pour nous? Ah, vous voyez, s'il dit, bon, je viens demain, on est cuit, hein? Ben oui. C'est pour ça que dans la parole, il nous dit, c'est maintenant le moment. Le lendemain ne nous appartient pas. Et si je m'entête dans ma position, je risque de passer à côté de ce que Dieu veut pour moi. Parce que ce que Dieu veut faire, il le fera avec moi ou sans moi. Alors, est-ce que je veux, est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je reconnais que si dans ma vie il y a des choses encore qui ne vont pas, c'est probablement, voire même sûrement, parce que j'ai voulu te servir avec ma chair. Et parce que j'ai fait comme ça, regarde, Seigneur, pas seulement j'ai souffert, mais j'ai produit de la souffrance. Vous savez, le comportement de Simon et des autres disciples ont certainement blessé les uns et les autres. Ils étaient même arrivés au point de chasser les petits-enfants qui venaient à Jésus. Alors que Jésus leur dit, laissez venir les enfants à moi. Par amour du Seigneur, on pourrait parfois même couper des oreilles. Non? Seigneur, je t'aime. Oui, drôle de manière de montrer l'amour de Dieu. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il répare. Dieu soit béni parce qu'il est capable de réparer nos erreurs. Mais il y a un moment, il faut aussi dire, Seigneur, j'arrête de me tromper. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et c'est là que tout change. On ferme nos yeux. Je voudrais juste faire un appel. Je ne vais pas vous demander de lever la main. C'est quelque chose qui reste entre vous et Dieu.